Éric Bataillon.
Bonjour, dernier volet de notre série sur les villes du Moyen-Orient, Beyrouth, avec l'écrivain, journaliste et photographe David Hury, dont le dernier ouvrage, The Beyrouth Book, est paru au printemps chez l'éditeur libanais Tamiras. Il faut se méfier des apparences et prendre les effets d'annonce pour ce qu'ils sont. Tels pourraient être les enseignements du dernier livre du journaliste indépendant Nicolas Hénin. Dans Djihad Academy, publié chez Fayard et consacré à la situation en Syrie et en Irak, le reporter revient sur de nombreuses idées reçues concernant aussi bien le régime syrien que l'État islamique ou la défense de la ville kurde de Kobané, avec l'œil du spécialiste qui a côtoyé le terrain au plus près.
Orient Hebdo sur RFI.
والحب بأوله والحلم بأوله والليلة الطويل عالمسا في مين إنسان خيالين بين الأناديل.
David Hury, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, vous êtes installé à Beyrouth en 1997 et vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés à la capitale libanaise. Jour tranquille à Beyrouth, coécrit avec Nathalie Bontemps en 2009, Beyrouth sur écoute en 2011 et plus récemment Beyrouth Book, dont Orient Hebdo s'est fait l'écho à sa sortie en mars lors du Salon du Livre de Paris. David Hury, qu'est-ce que cette ville de Beyrouth a de si particulier ?
Je vais commencer par un détail, c'est la lumière. Moi j'écris beaucoup, mais je fais aussi beaucoup de photos. Alors c'est peut-être quelque chose de commun à plusieurs villes de la Méditerranée, mais la lumière de Beyrouth est juste incroyable.
Qu'est-ce que l'on voit dans Beyrouth lorsqu'on s'y promène ?
Bon, pour celles et ceux qui ne sont jamais venus à Beyrouth, il faut les prévenir tout de suite, Beyrouth n'est pas une jolie ville. En revanche, c'est une ville très très attachante, que ce soit par les gens qu'on y croise, par tous ces petits quartiers qui composent la capitale, parce que c'est vraiment une constellation de petits villages. Et tout le monde s'entraide.
Et est-ce que chaque village appartient à une forme de communauté particulière, par exemple religieuse ou autre ?
On a toujours dans la tête la division Beyrouth-Est, Beyrouth-Ouest, entre la partie chrétienne et la partie musulmane. Après, dans chacune de ces grandes zones, même si cette frontière est encore présente dans la tête de certains, dans ces petits villages, on respecte la loi du chef de clan, en fait. Voilà, que ce soit en montagne ou bien dans la capitale, ça reste un pays très clanique et très féodal. Donc, par exemple, s'il y a problème dans un quartier, il y a le zarim du quartier qui est un peu le chef du quartier. Donc s'il y a un problème, on va le voir et c'est un peu lui le juge de paix.
Est-ce qu'il y a des lieux emblématiques dans cette ville ?
Comme la Tour Eiffel à Paris, vous voulez dire ?
Par exemple, ou d'autres moins connus ?
Des lieux emblématiques, il y en a plusieurs. Il y a la place des Martyrs, évidemment, qui a changé d'aspect depuis la guerre. On a des cartes postales de cette place des Martyrs avec le tramway et les palmiers, ça n'existe plus. Il y a encore la statue des Martyrs qui avait été remise il y a une dizaine d'années à son emplacement. Sinon, il y a le front de mer qui est très beau avec cet immense rocher qu'on appelle la grotte aux pigeons, où les gens aiment bien se balader. Enfin voilà, il y a certains endroits comme ça. Et puis il y a des endroits emblématiques comme le carrefour de Sodeco qui était placé sur la ligne verte pendant la guerre, où il y a la vieille maison, ce qu'on appelle la maison jaune, l'immeuble Barakat, qui est en train d'être transformé en musée, justement mémorial de la guerre. Sur cette même ligne, il y a le musée, qui était pareil, très célèbre pendant la guerre civile à cause de ses snipers, et c'est donc le passage du musée, comme on l'appelait. Il y a plusieurs points comme ça, stratégiques dans la ville.
Est-ce que justement, il y a des traces encore de cette guerre civile qui n'est pas si lointaine ?
De moins en moins, on va dire dans Beyrouth, intramuros, il y a encore quelques quartiers où on voit ces façades criblées de balles. Mais on va dire que la ville a subi un gros lifting quand même depuis 25 ans.
Alors justement, le centre-ville a été rénové par l'ancien Premier ministre assassiné, Rafik Hariri. Est-ce que c'est redevenu le centre de la ville ?
Pas du tout. Moi, quand je suis arrivé à Beyrouth, ce centre-ville, donc ce qui a été pris par une société commerciale qui s'appelle Solidaire, donc pour la reconstruction du centre-ville, tout ça s'est entouré de palissades. Donc c'était une zone qui n'existait pas. Et en 99, ils ont enlevé les palissades. On a découvert ce qu'était le nouveau centre-ville relifté, justement. Donc avec les façades refaites, des jolis volets en bois. Bon, tout ça avait un aspect très superficiel, très artificiel. Les Libanais se sont pas du tout réappropriés ce centre-ville. Ça a été principalement pour les Arabes du Golfe. Surtout après 2001, parce qu'ils sont beaucoup venus à Beyrouth après 2001. C'est que des boutiques de luxe, donc c'est 1% de la population libanaise qui peut dépenser son argent dans cet endroit-là. Donc les Libanais préfèrent les quartiers, soit d'Ashrafieh, soit dans le quartier chrétien, soit le quartier de Hamra, dans la zone à majorité musulmane.
Beyrouth, c'est aussi une vie culturelle foisonnante. En tout cas, ça l'était lorsque le Liban était appelé la Suisse du Moyen-Orient. Est-ce que ça l'est de nouveau aujourd'hui?
Bon, d'abord, la Suisse du Moyen-Orient, c'est, on va dire que c'est un cliché qui vaut encore quelque chose aujourd'hui, parce que la Suisse du Moyen-Orient, ça veut dire les banques. Et les banques libanaises tiennent l'État, vraiment, on porte l'État à bout de bras, les banques privées. Si le pays a plutôt bien résisté à la crise 2008-2010, par exemple, c'est grâce au système bancaire ultra-protectionniste qui ne permet pas, justement, tous les produits dérivés bancaires à risque. Donc, quelque part, le Liban est encore la Suisse du Moyen-Orient, d'autant plus qu'on peut y skier quand on veut, presque. Enfin, presque. Maintenant, pour la vie culturelle, c'est un petit peu comme la vie politique, c'est une sinusoïde, en fait. Il y a des épiphénomènes, il y a de très belles choses qui s'y passent, il y a des choses un peu moins bonnes qui s'y passent. Il faut comprendre aussi que Beyrouth est une petite ville, finalement. Tout le monde se connaît, tous les cercles culturels se connaissent, et il y a aussi beaucoup de guéguerres entre elles.
Alors, qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans cette ville et qui vous attire encore?
Le rythme de vie, ça c'est très clair. Alors, encore une fois, c'est peut-être comme la lumière, quelque chose de commun à plusieurs villes du bassin méditerranéen. Mais c'est surtout la relation au temps qui est extrêmement précieuse, en fait, là-bas. Le temps s'écoule différemment de l'Europe. Alors, peut-être qu'on perd notre temps. D'une certaine manière, c'est un peu moins trépidant, on va dire, que la vie métro-boulot-dodo parisienne. Mais ce rapport au temps est complètement différent. Et puis on le voit aussi à travers tout simplement l'histoire, à travers le nom des gens là-bas, parce que finalement c'est que des grandes familles. Donc on retrouve dans toute l'histoire du pays, même en remontant à la fin du 19e siècle, les mêmes noms de famille qu'aujourd'hui. Donc voilà, le rapport au temps est complètement différent de l'Europe. Et ça, c'est pour moi quelque chose, en tant qu'Européen, je suis parisien de naissance, était très appréciable quand je suis arrivé là-bas. Cette notion de temps, cette notion de liberté, on va dire que le pays est un vrai chaos, ce qui apporte une certaine dose de liberté, dans le sens où, si vous avez envie de monter une boîte, c'est très simple, il y a très peu d'impôts, donc les systèmes sont très différents, il y a très peu d'impôts mais il y a très peu de services, donc chacun compte sur le système D, on apprend beaucoup sur soi-même en fait en vivant à Beyrouth.
Est-ce que la ville est représentative du pays lui-même? Vous parlez du chaos qui marque effectivement actuellement le Liban, est-ce que la ville aussi est en chaos ou pas?
D'abord, Beyrouth n'est pas du tout représentative du pays. Pas du tout. Beyrouth, c'est vraiment une bulle à l'intérieur du Liban qui est grand comme le département de la Gironde, donc c'est déjà tout petit. Mais Beyrouth est une bulle et le Liban lui-même est une bulle dans cette région. Donc vous allez vous balader, que ce soit au nord du Liban, vous allez rencontrer des gens totalement différents, même d'aspect physique différent, l'accent différent. Vous allez dans la plaine de la Beka, par exemple, qui est limitrophe avec la Syrie, les gens sont complètement différents. Idem au sud Liban, voilà. Donc et après Beyrouth, comme toutes les grosses villes, il y a eu aussi un exode rural. Il y a des banlieues qui ont un petit peu gonflé, mais Beyrouth est très très différente du reste du Liban.
Un dernier mot sur s'il y avait un lieu emblématique à ne pas rater à Beyrouth quand on y va, ne serait-ce qu'une fois, un jour par exemple, quel serait-il?
Alors je vais vous dire une chose. Alors c'est un goût strictement personnel. Moi, ce que je conseillerais à tous de faire, c'est de trouver la vieille gare ferroviaire de Beyrouth. C'est un endroit immense, en bordure de Beyrouth. Et on y découvre à travers des herbes folles, des vieilles locomotives, celles qui passaient le col du Baïdar, donc qui allaient jusqu'en Syrie, avec les gros chasse-neige monstrueusement imposants en métal. Enfin, dans ces vieilles locomotives, comme on a l'image des vieilles locos. Et c'est un endroit complètement hors du temps à Beyrouth, où il y a des grands arbres, des herbes folles, on n'entend pas le son de la ville. Et puis on est dans un cadre totalement incroyable. Donc la vieille gare ferroviaire de Marmirael, il faut y aller.
Merci David Hurry de nous avoir fait visiter Beyrouth. Je rappelle votre dernier ouvrage paru, c'est un livre d'illustration, Beyrouth Book, publié par les éditions libanaises Tamiras.
Les Beyrouth.
nous écrire orient.hebdo@rfi.fr.
Nicolas Hénin est journaliste indépendant. Il travaille pour des médias francophones, radio, télé, presse écrite, et s'est spécialisé au fil du temps sur l'actualité du Proche et Moyen-Orient. Son engagement professionnel et personnel lui a valu plusieurs prix, mais aussi d'être retenu en otage pendant 300 jours en 2013-2014 par le groupe armé État islamique. Il a publié au printemps un livre éclairant, Djihad Academy, chez l'éditeur Fayard, un livre destiné à remettre quelques pendules à l'heure concernant la situation actuelle des belligérants en Syrie et en Irak. Nicolas Hénin.
Le principe de ce livre, c'est de façon très didactique de tordre le cou à un certain nombre de clichés ou d'idées reçues sur ces conflits en Syrie et en Irak. En effet, le régime syrien s'est toujours présenté, enfin drapé dans les oripeaux de la laïcité, et c'est en fait une vaste imposture. Le régime syrien s'est basé sur des minorités, sur un jeu communautaire pour asseoir son pouvoir, minorité qu'il n'a pas épargnée pour autant, à commencer par les chrétiens. On présente souvent Bachar el-Assad ou le régime syrien comme le défenseur des chrétiens, mais c'est une vaste imposture. Deux rappels pour tordre le cou à cette idée. D'abord, au moment où Hafez el-Assad, le père de Bachar, arrive au pouvoir, nous avons en Syrie 15% de la population qui est chrétienne. Au moment où la révolution commence en Syrie, avant même donc qu'elle n'ait ses effets sur ces populations, cette proportion est tombée à 5%. Les 10% de population chrétienne qui ont disparu sont bien le signe que ces populations ne se sentaient pas tellement protégées par le régime de Bachar el-Assad. Autre signe, on a eu dans la foulée de l'assassinat de Rafik Hariri à Beyrouth, les assassinats d'un certain nombre de députés ou de journalistes libanais, tous chrétiens. Et ces assassinats étaient télécommandés par Damas, étaient exécutés par Damas.
Dont Sami Kassir.
Exactement. Et ils sont une autre preuve, s'il en est encore besoin, de l'imposture de cette prétendue défense des chrétiens par ce régime de Bachar el-Assad.
Et ceux qui restent, chrétiens ou d'autres minorités, doivent prêter allégeance et payer une sorte d'impôt, la dîme.
Ceux qui restent dans les zones tenues par l'État islamique, oui, de fait, il en reste extrêmement peu, puisque la plupart des chrétiens sont terrorisés par l'arrivée des djihadistes et ont quitté leur maison avant que les djihadistes n'arrivent. J'ai croisé à Raqqa, quelques mois après la prise de la ville, un chrétien qui faisait son possible pour composer, qui était farouchement dans l'opposition à Bachar el-Assad et qui faisait son possible pour composer avec les djihadistes, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle.
Alors, l'une des personnes que vous interrogez dans votre livre, Riyad Saif, homme d'affaires et député indépendant dans les années 90, résume la situation économique et politique avec cette phrase « Bachar est persuadé que la Syrie est sa propriété privée ». Est-ce votre impression ?
Oui, exactement. J'irai même plus loin. C'est comme un enfant qui veut garder son jouet. Plutôt avoir son jouet cassé que de devoir le céder.
Alors, l'État syrien est une mafia qui a réussi, c'est ce que vous écrivez aussi, Nicolas Hénin. Mais les groupes islamistes armés ne semblent pas en reste, avec notamment pour eux le contrôle des barrages et aussi des postes frontières. Et tout cela est assez lucratif. Hein.
Oui, alors ça, le problème d'une guerre, c'est que quand elle s'installe, elle coûte cher. Et on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux où à la fois la guerre réclame des ressources et les différents groupes qui s'affrontent cherchent à faire main basse sur les ressources. Et à ce petit jeu, malheureusement, personne ne s'en sort grandi, puisque ce soit du côté des régimes, avec les milices supplétives qui tiennent le terrain dans un certain nombre de villages, qui mettent en coupe réglée les territoires qui sont sous leur contrôle, ou alors les différents groupes de l'opposition, depuis l'opposition modérée jusqu'aux groupes islamistes ou djihadistes, eh bien, tout le monde se livre à des pillages et à du racket des populations.
Oui, ce sont toujours les populations d'ailleurs qui payent.
Évidemment.
Vous affirmez également que le régime syrien a engendré l'État islamique. qu'il ne combat pas. Pourtant, son aviation bombarde régulièrement, comme on l'a vu à Palmyre, les positions tenues par l'État islamique.
C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Il aura fallu la chute de Mossoul pour assister au tout premier raid de l'aviation syrienne contre l'État islamique. La stratégie du régime, elle est très simple et elle est d'ailleurs... C'est un grand classique, hein. C'est ce que Vladimir Poutine avait fait en Tchétchénie. Poutine avait laissé se développer et favoriser l'émergence des radicaux, des djihadistes au sein des indépendantistes tchétchènes. Ça avait eu un double bénéfice. D'une part, les indépendantistes tchétchènes s'étaient retrouvés coincés entre deux feux, d'une part entre l'armée rouge et d'autre part les djihadistes. Et puis ça avait été très bon pour la présentation de sa guerre face à l'opinion internationale, puisqu'il pouvait simplement dire « Moi, là-bas, en Tchétchénie, je combats le terrorisme. » Donc, ça disqualifie la guérilla indépendantiste. Et puis, ça permet d'avoir laissé l'État islamique se développer. Ça permet d'écraser les réels démocrates, les révolutionnaires syriens. Et puis, ça permet qu'on se retrouve au bout du compte, dans l'idéal entretenu par Bachar, eh bien, dans un scénario où il ne reste plus que deux acteurs, et en l'occurrence, ça alimente le discours « moi ou le chaos » du régime syrien.
Dans votre livre, vous parlez également, Nicolas Hénin, de l'arnaque de Kobané, cette ville kurde dont on a suivi la défense face à l'État islamique. Que voulez-vous dire par là ?
Pour la plupart des gens dans l'opinion internationale, Kobané, c'était le Stalingrad de l'État islamique. C'était la ville où il fallait stopper leur progression. On en avait fait une question de vie ou de mort. Et ça devait être le point de retournement de cette progression. Le problème, c'est que Kobané, c'était le PYD, un groupe qui est considéré comme terroriste, qui le défend. Et donc, si pour nous, Kobané, c'était le symbole de la lutte entre le bien et le mal, eh bien pour la plupart des Syriens, Kobané, c'était une bagarre, une bataille entre deux groupes terroristes.
Enfin, Nicolas Hénin, vous évoquez le miracle de Davik, du nom d'une toute petite bourgade située en Syrie, au nord d'Alep. De quoi s'agit-il ?
C'est une ville qui a le malheur d'être citée dans un hadith. Un court extrait, un dit du prophète, enfin une partie du corpus de la Sunna, qui, si on l'interprète d'une certaine façon, peut être vu comme une prophétie, comme l'annonce de la bataille de la fin des temps. Et en fait, c'est l'un des principaux arguments de recrutement de l'État islamique, aussi bien sur le terrain moyen-oriental que chez nous, parmi les djihadistes qui quittent l'Occident pour aller se battre là-bas. Ils vendent l'idée que la bataille de la fin des temps se combattra, aura lieu à Dabiq, donc sur la terre qu'ils appellent terre de Cham, du nom antique de la Syrie.
Mythe ou réalité ?
C'est une construction politique, comme il y en a beaucoup.
Le journaliste indépendant Nicolas Hénin, auteur du livre « Jihad Academy » aux éditions Fayard. À la réalisation, François Porcheron. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.